C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
C'est dans l'art, votre rendez-vous culturel, un dimanche sur 4 sur le 93.9 FM et sur le canal Campus en DAB+.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, l'émission de recommandations culturelles de Radio Campus Paris. Une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité avec un zoom sur ce qui se fait pour chacun en Île-de-France. La dernière émission m'a travaillé, vous l'avez écouté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment se mettre à la place de quelqu'un à qui il manque un sens? Pouvons-nous découvrir une œuvre quand il nous manque un sens? Je suis allé à Paris, au Grand Palais, voir Claire Tabouret et Eva Jospin. J'ai l'impression que c'était l'exposition à faire ces dernières semaines. J'y suis allé et je me suis mis un instant à la place d'une personne à qui il manque un sens. Être à la place d'une personne sourde et ne pas entendre le bruit ambiant de la foule qui parcourt les deux expositions. Être à la place d'une personne non-voyante ou malvoyante et ne pas voir les couleurs qui se dégagent des œuvres de Claire Tabouret, ni de voir les détails des œuvres d'Eva Jospin. C'est dans ce cadre que l'art doit, dans la mesure du possible, être ouvert à toutes et tous, tout le temps, à travers la description, la découverte, l'opportunité, si c'est possible, de toucher les œuvres. Il existe des expositions dans ce cas. Nous essayons de faire ça une semaine sur quatre dans votre émission dédiée à l'art. Chères auditrices, chers auditeurs, déjà fidèles à notre émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez C'est dans l'art, l'émission de recommandations culturelles qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris et c'est sur Radio Campus Paris. Hortense est allée au jardin du musée Bourdel et est avec nous avec ses souvenirs couchés sur papier. Hugo nous parle du Amazing Digital Circus et clairement, je n'ai pas compris de quoi il s'agit. Diane a vu Harmonaut et nous dit ce qu'elle en a pensé. Vladimir est allé à la rencontre de Croc Brick et a vu sous un nouvel angle les utopies bétonnées du 13e arrondissement de la capitale. Violette a lu Protocole de Constance Debré et nous livre son bilan. C'est dans l'art, en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement sur radiocampusparis.org, sur le canal Campus en DAB+, et sur le 93.9 FM. Amis curieuses et curieux, top chrono pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
Pour m'accompagner ce soir, autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, Diane.
Bonsoir.
Hortense.
Bonsoir.
Hugo.
Bonsoir.
Violette.
Bonsoir.
Et Vladimir pour leur actu culturel à la technique dans la régie de Radio Campus Paris. Il y a Eléa. J'ai pas dit Vladimir ?
Si, mais j'ai pas eu le temps de dire bonsoir.
Ah, c'est pas grave.
Mais du coup, je dis bonsoir.
Je vois que ça s'agite comme ça, je comprends pas du tout. Et je suis Fabrice, bien évidemment. Ça va tout le monde ?
Ça va.
Moi, j'aime toujours l'art. Donc c'est bien.
Ah, c'est chouette ça.
Vous aimez bien l'art ici ou pas?
Moi j'adore
bof,
ça.
De fou.
Ça dépend.
Bof. Un jour sur quelqu'un deux. Dit bof.
Hugo t'es viré du coup.
Mais non, mais je dis un jour sur deux.
Pourquoi un jour sur deux?
Je sais pas.
Ouais.
J'ai pas dit que c'était vrai. Hein.
Violette, toi t'aimes bien l'art, rassure-moi.
Ah oui.
Allez, une heure à l'art dédié à l'art qui commence dès à présent.
Architecture.
Sculpture. Musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Hortense, quelle est ta recommandation en sculpture?
Alors, je suis allée au musée Bourdel. Effectivement, avec l'arrivée du printemps, j'avais envie de vous inviter à mettre le nez dehors. Car on a marre des musées mal éclairés pour aller voir de l'art. Bon, truc compte, toutes les œuvres ne peuvent pas juste être sorties dehors. Alors aujourd'hui, on va parler sculpture et jardin. Alors pourquoi je vous invite dans le 15e, je sais, c'est loin, pour découvrir les jardins du musée Atelier Bourdel. Dans ce musée, pas besoin d'aller chercher très loin pour reconnaître un coin de nature. D'emblée, depuis la rue et à travers la grille, des feuilles et des branches dépassent et semblent nous appeler. Une fois entré dans ce jardin, on découvre un mélange de réguliers, d'irréguliers, des œuvres monumentales, des sculptures plus petites et de quoi s'asseoir dans la nature florissante qui semble vouloir s'échapper de toutes parts. Vous pensez avoir tout vu? pas du tout. En continuant votre visite gratuite des collections permanentes du musée, vous tomberez très vite sur un deuxième jardin. Ici, la lumière est un peu moins présente. En effet, ce jardin est entouré de quatre bâtiments et en font une sorte de chambre végétale. Entre les arbres et les fougères, trois monumentales sculptures s'enracinent et se comparent à la verticalité des arbres. Puis, au fond de ce jardin, vous apercevrez une dernière entrée. C'est le troisième jardin. Oui, vous avez bien entendu, trois jardins. Il y en a pour tous les goûts. Le premier est un carré de 400 mètres carrés, le second un rectangle plus petit, et le dernier, une promenade en longueur, rythmée par une haie d'honneur de sculpture. Ici, il n'y a jamais de soleil. Parfait pour les étés caniculaires qui nous attendent.
Ça donne envie, mais en fait, c'est qui, bourdel ? Et c'est quoi cet endroit ?
Alors, Bourdelle est un sculpteur du XXe siècle. Il est élève de Rodin. Plastiquement, il est connu pour ses œuvres monumentales, son travail du corps et de la tension dans le bronze. Conceptuellement, il travaille autour de deux grands thèmes. D'une part, les hommages et les portraits, et d'autre part, les figures mythologiques et religieuses. Et cet endroit, c'est son atelier et son lieu de vie qui sont devenus, sous sa volonté et celle de sa femme, un musée. La nuance, par contre, c'est que de son vivant, les jardins n'existaient pas. En effet, à l'époque, Paris était beaucoup moins urbain, surtout le quartier Montparnasse, et donc on avait moins besoin de jardins pour respirer. C'est quand les lieux sont devenus un musée qu'on a progressivement transformé les cours en jardins et en espaces d'exposition. Pour vous rassurer, les sculptures de Bourdelle et l'espace extérieur restent quand même un combo gagnant. En effet, les figures monumentales et les hommages sont des sculptures qui s'épanouissent bien dans l'espace extérieur. Il y a presque un contexte végétal qui donne une valeur particulière aux œuvres et à l'iconographie. Ainsi, si les jardins n'étaient pas de la période de Bourdelle lui-même, lui-même entreposait des œuvres dans les cours de ses ateliers. De plus, il a réalisé des œuvres directement pour l'espace public. Ceci explique pour sa première rétrospective au musée de l'Orangerie, de nombreuses sculptures avaient été exposées dans le jardin des Tuileries.
Donc les jardins de l'atelier Bourdelle suffisent pour qu'on comprenne son œuvre ?
Honnêtement, oui. D'une part, dans ces jardins, on trouve toutes sortes d'iconographies bourdelliennes, du mythologique, de l'hommage et même de l'animal. Puis, on comprend la grande force du travail de Bourdelle. Il y a une attention portée sur la verticalité et le rapport d'échelle. On va trouver des œuvres diverses de sa production, de diverses tailles et exécutées de diverses manières. Puis, il y a le cadre. Autour de ce musée-jardin, il y a une réflexion. Tout d'abord sur la luminosité qui baisse avec la visite et qui nous donne l'impression de pénétrer dans une forêt, dans un espace intérieur presque introspectif. Les œuvres coïncident avec cette idée. De l'hommage à l'évocation christique, une forme de mythologie qui s'autogénère et impose une ambiance mystique. Puis, surtout, l'espace du jardin nous permet de prendre notre temps, de s'asseoir, d'oublier les œuvres ou de les regarder différemment. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite au moindre rayon de soleil parisien, à vous rendre au musée Atelier Bourdelle, au 18 rue Antoine Bourdelle, que ce soit pour apprécier les œuvres ou l'ambiance générale.
Il a un musée et en plus il a une rue, c'est génial. C'est quel métro ?
Je sais même pas. Il a même deux musées parce qu'il y a un autre jardin, musée-jardin, qui est en banlieue cette fois où... En France.
Banlieue, France.
Non, mais je ne sais plus exactement l'endroit et précis où c'est.
Périphérique, mais... débrouillez-vous.
Ce mépris parisien.
Non. Non, mais c'est vraiment à la frontière de l'Île-de-France, je crois. C'est pour ça que je.
D'accord, un espèce de Rambouillet, quelque chose comme ça. Quoi.
Voilà, c'est me voir plus loin encore.
Ok. Voilà. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas ?
Eh ben, j'écris un mémoire actuellement sur les jardins de musée et j'ai trouvé que ce jardin, il y avait quelque chose d'assez particulier justement sur ce fait qu'on rentre peu à peu dans une ambiance particulière et justement dans ce truc de plus en plus dans l'ombre et tout. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une réflexion et le fait en fait que ce soit pas lui qui l'ait réfléchi, que ce soit le fait que ce soit un musée qui se donne ça, je trouve que... Je sais pas, je trouve que c'est un phénomène intéressant et une réinterprétation de l'œuvre en fait.
Violette ?
Bah, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir comment en fait il y a un travail d'une part de mise en scène de toutes ces sculptures et aussi d'urbanisme parce que t'as vraiment aussi beaucoup parlé de toute la végétation, etc. Mmh. Donc à la croisée de deux arts, je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant.
Vladimir ?
Ouais, bah non, mais c'est intéressant que des personnes aient pris ces œuvres et en aient fait quelque chose d'autre. Je sais qu'en général, les artistes sont quand même assez, ils veulent vraiment tout contrôler sur la mise en scène de leurs propres œuvres et tout. Et là, le fait que ce soit un musée qui décide de mettre ça d'une manière un peu différente, je pense que ça a l'air de donner en tout cas un résultat qui a l'air quand même vachement intéressant. Mmh. Même si parfois les artistes arrivent à très bien mettre en scène leurs propres œuvres aussi.
Oui, oui.
mais voilà, ouais, ça a l'air cool.
Diane ?
Bah moi aussi ça m'intéresse beaucoup et en plus je suis un peu en recherche de nouveaux lieux à découvrir dans Paris, etc. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup et je suis d'accord avec Vladimir, souvent les artistes ils sont un peu genre contrôle fric à vouloir tout faire, plus grand que leur ego, etc. et de leurs propres œuvres. Donc je trouve ça intéressant de voir cette complémentarité sur un musée et sur les jardins.
Hugo ?
Bah moi je suis pas le plus grand fan de sculpture de cette émission, mais j'avoue que le côté jardin, ça m'a grave donné envie d'y aller, parce que même genre le côté canicule, enfin anti-caniculaire, j'avoue,
on cherche des lieux,
ça donne très très envie d'aller voir.
Moi, ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai fait une comparaison directe avec le musée Albert Kahn qui se trouve à Boulogne. Je sais pas pourquoi j'étais à Albert Kahn. Tu me racontais tout ça, le jardin, les sculptures, etc. J'étais à Albert Kahn. Albert Kahn, pour vous resituer, c'est un musée qui se trouve vraiment pas très loin de la station de métro. C'est le conseil départemental des Hauts-de-Seine qui a créé ce musée-là, qui a été réhabilité il y a quelques années. Et en fait, c'est un gars qui a décidé de faire les archives de la planète, qui est devenu philanthrope. Mmh. Et il a payé une dizaine de personnes. Ils ont photographié à peu près le monde. Et quand on arrive là-bas, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a créé un jardin et il y a le... Ouais. Donc il est alsacien. Donc il a un jardin alsacien français, anglais, japonais, chinois. Donc différents types de jardins comme ça qui sont les uns à côté des autres. Il y a vraiment différentes pièces. Il y a des films, il y a des photos.
Il y a, il y a de l'archi aussi. Il y a des architectures qui sont...
Ouais, aussi de l'architecture, t'as raison.
C'est, il a aussi reproduit en fait... Enfin, il a fait des archives du monde, mais là, il nous a créé des jardins. C'est quand même assez impressionnant.
Et donc, je sais pas, j'ai vraiment fait le parallèle. Je suis curieux d'aller voir l'atelier Bourdais. Ça me dit pas
ouais,
mal.
C'est un peu différent. Bah, y a vraiment, en vrai, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une réflexion sur l'échange entre sculpture et jardin. Mm-hmm. Ce qui n'est pas si souvent dans les jardins de musées, parce que soit on a des exemples un peu classiques de juste du verre avec des sculptures qui sont posées dedans, ou alors l'inverse, des sculptures où tu ne vois pas vraiment pourquoi elles ont été mises là, ou alors pas du tout. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un vrai échange quoi, entre les deux formes de...
Moi, ça me fait penser, alors en Indre-et-Loire, il y a un festival des jardins au château de quelque chose.
De Chaumont-sur-Loire.
Voilà. Ouais. Et en fait, moi, j'y suis allée plusieurs fois et c'est super beau parce que du coup, il y a un vrai travail sur le jardin qui est en plus vraiment travaillé tout au long de l'année, etc. Et des œuvres, du coup, qui sont dans les jardins et qui sont. On se balade dans les jardins et c'est un peu la chasse au trésor de qu'est-ce qu'on va trouver derrière.
Donc, là, ça me fait penser. Et puis, la sculpture a cet avantage d'être un des seuls médiums qui peut vraiment être exposé. Sans souci trop long terme. Donc,
Notamment sur les ronds-points.
Notamment sur les ronds-points.
Et est-ce que l'entrée est gratuite ou pas ?
Et bah, c'est un musée de la ville de Paris, donc les collections permanentes, elles sont gratuites, pas les expositions temporaires par contre.
Bon, beaucoup de recommandations là, je crois. Donc le musée Bourdel dans le 15e, Albert Kahn à Boulogne,
Chaumont-sur-Loire, Festival des Jardins.
Et tous les ronds-points de France.
Et tous les ronds-points de France, bien évidemment.
Ça fait beaucoup là-bas.
C'est génial. Merci.
On pourrait
tout
y exposer,
monde.
Vladimir.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art.
C'est dans l'art, sur Radio Campus Paris.
Hugo. C'est quoi The Amazing Digital Circus, ton sujet dans les arts médiatiques?
Ah là là, oui Fabrice. Alors avant d'expliquer plus précisément ce que est TADC pour les intimes, sachez qu'en tant que chroniqueur online terminally, je me devais de vous parler de ce petit cartoon qui a retourné Internet. Puisque dans l'incroyable cirque numérique, on y découvre 6 humains, Kinger, Ragata, Jax, Gungle, Zubul et Pomni piégés dans un monde numérique où toute sortie est impossible. Au fil des épisodes, on les découvre dans les différentes aventures créées par Kane, l'IA toute puissante qui contrôle le cirque numérique. En gros, ils font du RP.
Alors, du RP, c'est quoi ça encore ?
Ah, Fabrice, t'es tellement vieux. Le RP, c'est du roleplay. Du jeu de rôle, quoi. Ils jouent au chevalier, au héros, si tu veux. C'est vraiment un jeu. Ils sont techniquement immortels. Les ennemis et amis qu'ils se font dans leur aventure vont disparaître sitôt le jeu terminé. Pour résumer, on a 6 humains piégés dans un monde numérique qui jouent toute la journée pour oublier qu'ils sont piégés et faire plaisir à l'IA qui dirige ce monde. Et là, Fabrice, normalement, tu dois te demander.
Mais Hugo, pourquoi c'est si bien ?
Ah là là, Fab, t'es tellement prévisible ! Peut-être parce que c'est moi qui ai écrit tes questions.
Sans blague.
Bon, la série dispose de beaucoup de points forts. Déjà en termes d'ambiance, que ce soit par les musiques ou les couleurs, la série parvient à faire naître un grand paradoxe. Entre une apparence enfantine et douce, haute aux couleurs chatoyantes, et les horreurs lovecraftiennes auxquelles sont parfois confrontés les personnages. Et ce grand écart traverse toute la série. Les épisodes sont souvent centrés sur la psyché des personnages. Par exemple, l'un peut traverser une crise existentielle profonde, tandis que les autres tapent leur meilleur volet à la plage. L'un peut prétendre que rien n'est réel et qu'ils ne sont plus humains, tandis que les autres rappellent qu'ils sont humains avant tout et que peu importe leur tracas, ce qu'ils font a un sens. Un épisode peut donner tort sur tous les points à un personnage et le suivant raison. Le jeu avance tout en retournement, retournant systématiquement ses situations et ses thématiques.
Par contre, Hugo, tu sais que tu es censé parler d'art numérique ?
Merci.
D'art numérique.
D'art
médiatique.
Voilà. Merci Fabrice pour cette remarque absolument inintéressante.
Que tu as écrit, soit dit en passant.
Car c'est justement mon prochain point. Glitch, le studio derrière la série, occupe une super place sur les réseaux sociaux, comptant notamment sur la vente de goodies et de peluches pour financer la série. Il n'hésite pas à faire de petits clips promotionnels en format court, taillés précisément pour les algorithmes. Goosework, la créatrice de la série, s'amuse d'ailleurs à répondre aux questions des fans, alimentant les théories et l'agitation. Même si elle ment souvent lors de ses réponses, car elle trouve ça amusant de nous tromper et d'agiter la communauté sur du vent. Car l'attente entre les épisodes est parfois longue, mais l'attente fait partie de la série. On a des créations de cosplay qui réunissent les fans, des créations de chansons non officielles qui alimentent le fandom et vient souder une culture commune qui renforce l'intérêt pour la série. C'est une façon pour les fans de faire continuer à faire exister la série et de continuer à faire croître sa popularité. Chaque sortie d'épisode est ainsi vécue collectivement. Les vidéos théories ou les foisonnements de mèmes arrivent toujours à ces périodes, alimentant encore davantage la place de la série sur Internet. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette série, The Amazing Digital Circus, et à prendre une petite peluche à l'occasion, si elle vous plaise. Mais je ne suis pas le meilleur pour vous en parler. Il y a quelqu'un qui nous écoute depuis le début qui le fera bien mieux que moi. N'est-ce pas, Kane ?
Oui, merci pour cette incroyable chronique, ma petite bonbonnière balado-diffusée. Si vous voulez aider à financer la série, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Glitch pour découvrir nos incroyables goodies et peluches. Il y en a même à mon effigie. Elles sont toutes trop belles. Et si vous ne le faites pas, je vous ferai subir un tourment éternel. Bye les humains !
Je vous avais dit qu'un jour vous entendriez Eléa à ce micro. C'est magnifique. T'étais obligé de parler de jeux vidéo.
Mais c'est pas un jeu vidéo, c'est une série.
Vladimir.
Ouah, c'est à moi de commencer.
Ça y est, Vladimir s'est réveillé, il a fait sa petite sieste.
Alors je tiens à préciser qu'il a fait une tête de surprise. Ah bon, je suis dans une émission, je dois parler.
Non, mais c'est bien de savoir qu'il y a des manières de raconter des histoires et des manières d'engager des histoires qui sont vraiment très très propres au 21e siècle et notamment aux années 2020. Voilà, donc je trouve ça quand même vachement intéressant de se dire qu'une série, maintenant, c'est plus qu'une série. C'est un mélange de plein de différents médiums et je pense que ça incarne beaucoup la volonté d'interaction qui est centrale. Je pense aujourd'hui, surtout depuis l'avènement du jeu vidéo, où maintenant, tout est source d'interaction. Ou même dans les nouveaux médias, par exemple, sur les live Twitch, les gens ils veulent interagir en direct avec les gens. Toute cette volonté, en fait, contre les personnes qui ont l'habitude de consommer des médias, maintenant se veulent aussi interactifs, se veulent participatifs, et veulent vraiment créer un peu tout ça. C'est ce que je ressens, en tout cas, dans ce que tu as essayé de dire. C'est-à-dire que c'est pas juste une série qui est écrite et qui est diffusée, c'est vraiment une série qui est co-animée et enrichie à chaque fois par les interactions des personnes. Et ça représente quand même vachement le truc. Donc si je veux me sentir moins vieux, je pense que je vais regarder ça.
Très jeune Vladimir, t'inquiète pas.
Diane, je t'ai gauché de la tête.
Comparé à Fabrice.
Non, parce que Vladimir a dit ce que t'as essayé de dire, donc je trouve ça un peu...
Vlad et moi, on a à peu près le même âge.
Ouais, vous êtes très très jeune dans vos têtes, vous inquiétez pas.
À comparer à Hugo ?
Ouais, non, ça va.
c'est très intéressant et puis moi ça me tente bien. J'ai fait les recherches pour faire le post Insta avant l'émission et du coup j'ai trouvé quelques images. Ça m'intrigue un peu d'en savoir plus. Et comme disait Vladimir, je pense que c'est intéressant d'avoir de l'interaction et de l'immersion de plus en plus dans les médias et dans ce qu'on consomme parce que ça permet aussi d'être acteur de notre propre visionnage, on va dire, de notre propre art, même si on définit ça comme de l'art ou pas, mais ouais, je trouve que c'est nécessaire.
Hortense ?
Moi, j'avais pas vu passer cette série, donc déjà c'est une découverte. Et ensuite, c'est vrai que moi ça m'intéresse toujours les trucs de lore en fait, où justement il y a des échanges entre les créateurs et les internautes, etc. Et justement, le fait qu'elle mente, je trouve ça trop bien. Parce que je trouve que, je pense même qu'en tant que créateur, ça te donne des idées. En fait, souvent, les gens, ils vont tellement loin dans les supputations, les réflexions, etc. Enfin, sur le jeu vidéo, il y a beaucoup ça pour la compréhension de quels sont les indices. Et donc, dans les séries, en fait, je trouve ça trop bien aussi quand, justement, les gens, ils créent une grande enquête qui, en fait, dépasse l'intention des créateurs. Et donc, le fait qu'elle leur montre, je pense, enfin, j'ai l'impression que, justement, elle cherche un peu d'avoir de l'inspi limite. Mais du coup, je trouve ça trop chouette.
Violette.
Ben moi pareil, je connaissais pas du tout, mais en tout cas je suis très curieuse de découvrir ça. Et puis ouais, rien que pour tout ce que ça engendre en périphérie, ça mérite en fait d'y jeter un coup d'œil. Je pense.
Ça a l'air d'être pas mal quoi. Donc c'est pour voir la série, c'est quoi?
Alors vous avez deux possibilités, l'une gratuitement sur YouTube, ou alors si vous avez un compte Netflix, eh bien la série est disponible sur Netflix.
Ok. Parce que pour essayer de prendre des renseignements sur cette série, impossible hein.
Ah bon?
Ah, pour préparer l'émission.
Vas-y, alors. Vraiment, c'est un phénomène sur internet. Genre, il y a vraiment énormément de vidéos dessus. Enfin, c'est super facile à trouver.
Ouais, mais tu sais, avec les boucles de. Avec comment ça s'appelle, les algorithmes, il suffit que ça soit pas référencé dans ton algorithme et c'est fini. Hein.
Ouais, ou alors t'es juste âgé. Pas...
Peut-être aussi.
Aujourd'hui, il a décidé de te faire sur ton âge.
Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, à chaque fois que lui et moi sommes dans la même émission, il me rappelle mon âge.
Non, c'est faux.
Le jour où t'auras le mien, franchement, je te tomberai dessus.
T'as quel âge?
J'ai 22 ans.
Ah oui, ok, ça va.
Mais donc,
oui.
Littéralement,
dans
10
ma tête,
ans
t'étais plus petit encore, vu que vous arrêtez pas de dire.
On a 10 ans d'écart, presque une génération. Hein.
Une génération.
Non, c'est plus. Une génération, c'est 14-15 ans. Bon, merci tout le monde. Amazing Digital Circus, c'est sur Netflix et sur YouTube.
Exactement.
Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Nous continuons avec la littérature, l'architecture et les arts de la scène. À tout de suite.